nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Alors pourquoi ne pas nous voir plus souvent ? Elle lui dit, je veux bien. Et il décide de se voir plus souvent. À force de se voir plus souvent, ils finissent à oublier plusieurs fois l'heure et de vivre ensemble. Apolline reste chez Charles-André. Très vite, une bonne camaraderie, elle est passée de tendresse à amour. Ils ont repris les habitudes de Paris, couchent, vivent ensemble, sortent toujours ensemble. Apolline a pris l'habitude de s'habiller comme son frère en pantalon et chemise. Les gens qui les reçoivent s'en amusent et les critiquent derrière leur dos. Charles-André continue à écrire, mais ses écrits ont moins de succès à cause de ses anciens lecteurs. Non, à cause que ses anciens lecteurs l'ont laissé et que les nouveaux l'ont cru qu'il s'était mis, qu'il avait passé à l'ennemi. Heureusement qu'il a pour vivre le travail de son père. Malheureusement, le frère et la sœur sont dépensiers, voyagent souvent ensemble, se droguent. Pour beaucoup de gens, ils sont devenus le couple infernal. On les reçoit parce qu'ils font partie du monde. La vie scandaleuse qu'il mène met en colère Jules, car il pense que les noms des beaux mandins est bafoué. Le temps passe. Jules a un deuxième enfant, Jean. Cet enfant, ce bébé, il en est tombé tout de suite amoureux. Il en est fou. Il la prend constamment dans ses bras, la pouponne, lui chante des cantines, la promène. C'est sa petite princesse. Sa femme est heureuse de le voir comme ça. passe. Et petit à petit, Jules, sans savoir pourquoi, devient taciturne, très triste. Il s'arrête de s'occuper de son enfant. Quelque chose à l'intérieur de lui l'inquiète. Mais quoi ? Ses cours marchent bien, ses livres se vendent de mieux en mieux, mais sa petite famille ne lui cause pas trop de soucis. Marie s'inquiète de le voir taciturne. Sans le lui dire, elle fait venir le médecin chez eux. Le docteur Victor Jean est un jeune médecin de 30 ans, grand, mince, habillé de noir. Il arrive un après-midi, le domestique l'a mené au salon où est madame. Elle est au salon, debout, et lui dit « Bonjour docteur, je vous ai fait venir, c'est au sujet de mon mari, je le trouve fatigué, déprimé, si vous pouviez le voir. » « Oui, bien sûr, madame. Je l'ai allé à son bureau. Je ne lui ai pas dit que je vous avais convoqué. »
Elle met le docteur au bureau. Entrez.
Il est assis à son bureau. Elle va vers lui et lui dit « Je me suis permis, c'est de faire venir le médecin pour qu'il t'ausculte. Mais je ne suis pas malade. Tu ne vas pas bien. Or, si tu veux, » loge les épaules, lui dit « Puisqu'il est là, fais-le venir. » Elle va faire rentrer le médecin. Le sculpte et lui dit qu'il faut un changement d'air, de vie. Partez, faites un voyage seul avec votre femme. Vous avez raison. Peut-être oui, je partirai. Il en parle à Marie, qui est d'accord pour partir avec lui. Les enfants les enverront chez leurs grands-parents. Ils décident de partir pour Venise. Jules ne connaît pas. Les deux enfants ont été envoyés chez Constant et Jules et Marie sont partis pour Venise.
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue.
Arrivé à Venise, ils vont à l'hôtel où ils sont réservés leur chambre. C'est un des plus grands hôtels de Venise, avec vue sur la plage. Ils ont une suite, salon, chambre, salle de bain, avec balcon. Tout est parfait.
J'espère que vous passerez d'agréables vacances.
Premier temps, Jules et sa femme passent leur séjour dans le hall de l'hôtel où, assis sur des chaises longues à la page. Un après-midi, dans le salon de l'hôtel où sont, Jules voit arriver en face d'eux une femme et un jeune adolescent. La femme est grande, mince, blanche et très élégante avec une robe crème. Le jeune adolescent d'à peu près 14-15 ans est mince avec une grâce extraordinaire. Les cheveux mi-longs blonds qui ondulent. Il a les traits du visage très fins. Est habillé d'un costume marine blanc Jules a tout de suite remarqué sa grâce, sa beauté, son côté nonchalant et plein de grâce, de la façon dont il se tient. Une main touche son menton, l'autre reste sur le dossier, légèrement penché sur le côté droit. Il semble regarder sans voir. Jules se dit que c'est l'être le plus exquis qu'il n'ait jamais vu. Il est comme hypnotisé par ce jeune garçon. Sa femme le voit, les yeux fixes, et lui demande « Tu n'es pas bien ?»« Si, ça va très bien. » Désormais, durant leur séjour, Jules se sent obsédé. Le jeune homme à la plage, au salon, à l'hôtel, à la salle à manger, il fait que le regarder. Sa femme s'en aperçoit et n'ose rien dire. Chaque fois qu'il est dans un endroit, il cherche pour voir le jeune homme s'il est là. À force à des assistants, remarquer quand monsieur l'observait, il le regarde avec dédain et en passant vers lui sourit, un sourire malicieux. Quelquefois, l'adolescent se retourne pour voir l'homme. On a l'impression, c'est que le jeune adolescent sait le dessus. Les désirs qu'éprouve Jules est qu'il en joue. Il fait le coquet. Quelquefois, il le regarde bien en face avec un air de lui dire « Tu ne mourras jamais » ou prend des poses avenantes pour lui montrer sa force sur lui. Jules se contente de le regarder et ne cherche même pas à lui parler. D'ailleurs, très vite, il s'est rendu compte qu'il y a un mur entre lui et le garçon. Ce mur, c'est l'âge. Jules, en le voyant, se sent vieux et laid. Il a l'impression que l'adolescent est dans un autre monde et que le sien a déjà un pied dans la tombe. La jeunesse à la beauté du garçon lui montre le temps qui passe. Ce qui fait que Jules regarde l'adolescent comme quelque chose d'inapprochable. Mais cela ne l'empêche pas, malgré lui, de l'aimer. Il aimerait aussi le toucher, tout en sachant que c'est impossible. À quoi pense Marie en le voyant épier, surveiller ce jeune garçon? Ils sont assis sur des chaises longues, sur la plage ou dans un salon de l'hôtel. Le jeune garçon et sa mère sont toujours en face d'eux. On se dit que ce mari est d'une sensibilité particulière, comme tous les artistes, et que s'il s'est épris de ce jeune garçon, c'est qu'il lui rappelle quelque chose qui lui fait penser à son fils. Mais elle voit ses regards insistants, l'adolescent qui semble lui répondre. Elle a l'impression, malgré elle, qu'un langage muet entre les deux se dit, et que ce langage semble un langage amoureux. Son mari et le jeune garçon lui semblent penser à deux jeunes pigeons au temps de l'amour. Cette idée la fait sourire, et elle les épie avec moquerie. Puis, elle secoue la tête et se dit, ce ne doit pas être ça. Peut-être a-t-il un projet de livre. Elle se penche vers lui et lui demande, tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien. Tu n'es pas... Ça va très bien? Il lui sourit, lui dit, pardonne-moi, mais je contemple tout ça. Le jeune homme se lave Il est en maillot de bain, marine. Va plonger dans la mer argentée. Je le regarde. Il s'est dit qu'on dirait un dieu dans ce décor. Le jeune Achille. Les jours passent ainsi. Et un matin, il voit la mère et l'adolescent partir. Jeune garçon se retourne avant de quitter l'hôtel et sourit à Jules. Jules est troublé. Grande mélancolie lui vient. Il a l'impression que le jeune homme lui a pris sa jeunesse. Se sent très vieux. Il a mal de partout. Sa père s'aperçoit. Ça ne va pas? Tu sens pas? Que se passe-t-il? Je crois que Venise ne me convient pas. Ça a un côté macabre. Sans le froid de la mort.
Il que monsieur veuille partir demain.
Elle lui dit.
Oui, demain, oui.
Oh. Tu veux que nous rentrions
monsieur, je suis chargé de
vous. Oui, je veux bien.
De venir quoi?
Je veux revoir les vieux enfants.
Le canot va partir.
Ça me fera du bien.
Ça, le temps presse.
Lyon est toujours hanté par Venise et ce qu'il a vécu. Il décide pour se libérer, c'est d'écrire une histoire qui se passerait à Venise. L'histoire d'un homme veuf, seul et vieux. Il est fatigué, il va passer quelques jours de repos à Venise. Malheureusement, il trouve sur son chemin un bel adolescent d'une beauté troublante qui est accompagné de sa mère. L'homme est troublé par cette beauté et ne peut s'empêcher de le regarder. Il passe son temps à le suivre du regard et à le suivre dans les rues de Venise. Il aime de plus en plus, mais voit que le jeune ne fait pas attention à lui. Un jour, il se regarde dans la glace et se voit vieux, moche. Il a honte. Et décide de s'arranger, va chez le coiffeur, se fait une teinture, etc. Mais le jeune garçon le regarde avec dédain et sans vouloir lui dire « Tu as beau essayer de m'attraper, tu ne m'auras jamais. » L'homme souffre et... Ah. Comme il s'essouffle, il comprend ce que veut dire l'âge de ses artères. Fin d'après-midi, après avoir marché pendant des heures à travers Venise, épuisé de l'avoir suivi, le jeune adolescent arrive à la plage. L'homme qui le suivait, essoufflé, s'assoit sur une chaise longue. Il voit l'adolescent qui regarde l'horizon de la mer. Il le voit de dos, lever le bras et indiquer le ciel. L'homme se sent mal, se soulève et tombe. Mort. L'enfant symbolise l'avenir et a guidé l'homme jusqu'à la mort. Voilà le résumé grossier de ce qu'a écrit Jules. La nouvelle a bien plu à sa femme et elle a compris ce qui s'était passé à Venise. Elle a eu un beau succès. Personne n'a réellement compris ce qui s'était passé. Car de son histoire d'amour, il en a fait l'histoire du vieil homme et de la mort. La mort symbolisée par le jeune adolescent. Dans la nouvelle, c'est le jeune adolescent qui mène le vieil homme à la mort. De l'histoire d'amour qu'il a eue, il en a fait une histoire symbolique sur la mort et universelle. je ne vais mieux. Il peut garder dans son corps cette rencontre avec la beauté. Ce souvenir permet à son corps de rester en paix. Le temps passe. La vie reprend avec sa femme qu'il aime affectueusement. Un jour, leur naît un nouvel enfant, Pierre, Jules Tremblay. Charles-André et Apolline continuent leur vie dissolue, mais ne cachent pas leur relation intime. Charles-André, dans ses romans, dit tout. C'est le sujet principal de ses livres. Jules, qui les lit, est scandalisé. Il lui écrit pour lui dire qu'il veut le voir. Charles-André va à son rendez-vous. Jules le reçoit à son bureau. Jules lui dit, j'ai lu tes écrits. Et je suis scandalisé parce que tu aimais. Tu ne caches même pas ta vie intime. Tu n'as pas honte de raconter tes rapports avec ta sœur? Que doivent penser les gens? Je demande d'arrêter ce scandale. Charles-André lui dit, tu n'as rien à m'interdire. Je fais ce que je veux. Je suis ton frère et tu sous de la famille. Pense à tes parents. Je suis majeur. Et puis ce que j'écris n'a rien qui peut faire rougir. Je lui dis, menteur, et ta vie avec Apolline, ce n'est que des histoires d'artistes. C'est dégoûtant. Tu écris, tu soules notre famille, il faut absolument arrêter. Je soule ma famille et toi, avec tes écrits. Qu'est-ce que tu fais? Si tu crois que je n'ai pas compris certaines choses, Jules devient tout rouge. Il se dit que son frère le connaît suffisamment pour lire entre les lignes. Va-t'en ! Charles-André se lève et sort de la pièce. Le temps passe. Jules continue toujours à beaucoup écrire. Ses livres sont appréciés par un nombre croissant, même à l'étranger. Au lycée, il est respecté par ses élèves et ses confrères, car pour eux, c'est un monsieur. Il respecte beaucoup sa femme et lui est très dévoué. Elle fait son devoir de maîtresse de maison et s'occupe de l'emploi du temps de son mari, ce qui n'est pas une mince affaire. Car il ne doit en aucun cas être gêné. Les enfants grandissent bien. Ils ont peu de goût à jouer avec le père et ils rentrent tard le soir. La plupart du temps, ils sont déjà couchés. Et lorsqu'il écrit à la maison, la maison doit être silencieuse. Il arrive souvent de voyager pour faire des conférences et présenter ses livres. Le temps passe. Comme pour tous les réveillons de Noël, la famille Beaumandin est réunie. Jules, sa femme, ses trois enfants, son père, sa mère et ses beaux-parents. Avant d'aller à la messe de minuit, on a passé la soirée au salon, près du feu, à jouer à des charades et Jules a lu un conte de Noël qu'il a écrit pour cette occasion. Puis avant de partir, on a mangé des brioches avec du chocolat. On est parti à la messe de minuit, bien mitouflé de manteau, châle, gants et chapeau. car en cette année de 1897, il fait particulièrement froid. La neige a tombé toute la journée et les rues sont toutes blanches, ce qui donne un charme peu ordinaire et cache la misère de la chaussée. Maintenant il gèle, la neige craque sur leurs pas. Il y a du monde dans les rues pour aller à la messe. Jules marche en regardant droit devant lui. Sa femme tient la main. Les enfants sont déjà grands. Albert a 14 ans, Jean 13 et Pierre 12. La famille va toujours à la messe à pied, car l'église n'est pas loin. Enfin, ils entrent dans l'église, tout illuminé et chauffé. Il y a du monde qui entre avec eux. Après la messe, ils sont revenus chez eux, se sont déshabillés, sont allés à la salle à manger pour le souper du réveillon. Jules s'est assis entre sa femme et son père. Il voit son père triste. Ça ne va pas, père?
Je pense à ton frère et à ta sœur.
Ne t'en fais pas pour eux. Ils ont choisi de vivre d'une façon immorale et scandaleuse. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas là pour une fête comme celle de Noël.
Tu as raison.
Jules, regarde ses enfants comme il le fait souvent avec satisfaction. Mais cette fois, il a arrêté la beauté et la grâce de Pierre. L'enfant est en train de manger bien sagement son potage. Ses cheveux chantants ont poussé et tombent en boucle en dessous de la nuque. Sa peau très blanche, ses lèvres rouges et pulpeuses, ses yeux d'un bleu profond sont grands. Il est habillé d'un costume marine et chemise blanche. Je n'avais pas fait attention à lui. On avait plus fait attention à lui qu'aux autres. C'est-à-dire que pour lui, cet enfant, que ses enfants ne font qu'en bloc, sans préférence. Et là, la surprise, il voit pour la première fois Pierre. Il ne voit que lui. Il est troublé. Mais pour se rassurer, il se dit qu'il a vraiment un très bel enfant. Sa femme le voit. Il a le regard fixe et lui demande « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Il lui répond « Je trouve notre fils Pierre être très bel enfant. » Elle regarde son fils et ne le trouve pas plus beau que les autres. Il lui dit « Oui, il est très beau. » Pendant tout le repas, Jules ne parle pas. Il est ébloui par la beauté de son fils. Pierre reste sagement assis entre sa grand-mère et sa sœur. Il se demande ce qu'il va avoir comme cadeau. Il aimerait une lanterne magique et se voit déjà projeter au salon les contes de Perrault ou un épisode de l'histoire de France. Il ne fait pas attention au regard de son père, qui pour lui est un adulte familier parmi les autres, qu'il faut respecter et si possible aimer. Après le repas, qui a duré plus longtemps à cause des nombreux plats, on est allé au salon.
Jules s'est assis dans un fauteuil près de ses parents. Jeanne et Albert se sont assis sur le plancher en face de la cheminée. Pierre, calme, s'est mis le dos contre la cheminée. Il n'a pas envie de jouer. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.